Lando Norris, qui était initialement parti troisième sur la grille de départ en Hongrie, convertit cette troisième place de départ en victoire dans ce Grand Prix pour en parler avec nous. Jean-Maxime Sans Souci du podcast Les Pins, comment ça va mon chum?
Bien, toi, Alex?
Ben oui, ça va bien. Merci de prendre du temps pour parler de ce week-end F1 avec nous. Toujours un grand plaisir de te jaser. Jean-Max, je sais que tu m'as envoyé quelques sujets, mais avant ça, moi, ce qui a retenu mon attention de tout ce week-end-là de F1, c'est la fameuse crisette de Lewis Hamilton, qui était pas content de partir 12e. Honnêtement, qu'est-ce qui se passe avec lui?
Lewis a beaucoup de misère avec la nouvelle Ferrari, a de la misère à s'adapter. Ça fait déjà quoi, 14 courses, si je ne me trompe pas, et est toujours incapable de la maîtriser et d'être en Q3 semaine après semaine et d'être au moins dans le top 5. Donc, ce qui arrive ce samedi, c'est que en qualification, on ne réussit même pas à passer Q1. Ne va pas en Q3 et donc part 12e. Il est extrêmement déçu, sort de sa monoplace, voit Charles Leclerc, qui a la même voiture que lui, obtenir la pole. Et là, on l'interview directement à froid comme ça. Et là, il se met à se dénigrer complètement. Il dit « I'm useless, je ne sers absolument à rien. La voiture n'a aucun problème, vous le voyez bien. Mon coéquipier a la pole. » Je pense qu'il va être temps qu'on commence chez Ferrari à sûrement se chercher un autre pilote. Et là, il s'auto-flagelle comme ça. Était décidément vraiment très triste. Et ça, j'aime pas ça voir ça, honnêtement.
Ben moi non plus.
On en a parlé, écoute, Alex, à notre podcast Les Pins. On disait que Lando Norris ne pouvait pas systématiquement, semaine après semaine, justement, se taper sur la tête comme ça, dire qu'il est pas bon, dire qu'il est pas rapide, dire que Max est trop fort pour lui. S'en souvient l'an passé. Mm-hmm. Si tu veux être un champion du monde, il faut que tu sois fort dans les bons comme dans les mauvais résultats. Et là, on voit un Lewis septuple champion du monde qui, visiblement, ça va pas comme il veut, puis il se traite de non, il se traite de pourri. Honnêtement, là, je déteste voir ça, puis il devrait pas faire ça, et ça démontre qu'il n'a plus le contrôle et qui semble, honnêtement, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère. Puis ça, c'est sûr que ça l'inquiète, sinon il réagirait pas comme ça.
Mais Jean-Max, moi, je vais être très franc avec toi. Lorsque j'ai entendu ça ce week-end, j'avais l'impression d'entendre la crisette d'un enfant de 10 ans qui est jaloux de son partenaire. Puis, clairement, t'es fan de F1, c'est sûr que t'es allé voir le film au cinéma. T'es allé voir le film F1 au cinéma?
Oui, absolument.
Ça me fait... Puis, pour ceux qui l'ont pas vu, je veux pas vous gâcher le plaisir, là, mais Brad Pitt se retrouve dans le rôle du vétéran qui à un certain point réalise qu'il n'aura pas le choix de prendre le jeune pilote sous son aile qui est dans son équipe, dans son écurie, et devra l'aider. Lewis a pas compris que peut-être que c'est ce rôle-là qu'il devrait jouer cette saison. Je comprends que chez Ferrari, on a de hautes attentes, mais si tu vois que tu as de la difficulté à contrôler ta monoplace, trouve une solution pour bien faire paraître ton partenaire.
Oui, je suis d'accord avec ça. Écoute, c'est vrai que c'est pas facile de passer de Mercedes où il a conduit là. Écoute, je me rappelle plus combien d'années exactement, mais au moins 10-12 ans, si c'est pas 16. Tu passes d'une voiture Mercedes qui est plus facile à conduire que la Ferrari. Je pense que c'est une des voitures les plus compliquées à conduire. Charles Leclerc le dit lui-même. Carlos Sainz le disait lui-même aussi. Et là... On est rendu loin dans la saison, tu sais. Je pense qu'il va falloir qu'il commence à donner plus de résultats. Les excuses, tu sais, m'amener, ça a une certaine limite. On sait que Lewis a de la misère avec les systèmes de freinage. Il le disait lui-même, c'est pas la même façon de traîner que la Mercedes. On a amené un nouveau système de suspension arrière en Belgique la semaine passée. On a amené un nouveau plancher. Et Charles conduit très bien. Il l'a dit. Là, enfin, j'ai la Ferrari là où je la veux, tout en contrôle. Et ça a paru ce week-end. Écoute, il a quand même mené la course pendant quoi? 39 à 59 tours. Mm-hmm. A été très bon. A été victime d'un problème de châssis aux alentours du 40e tour.
Ouais, puis il était pas content à la fin de la course, là.
Non, mais sur le coup, c'est ça. C'est que là, il s'en va au puits pour la première fois. Il mène encore. On lui met les pneus hard. Et là, soudainement, il se met à engueuler son ingénieur et dire, vous l'avez dit, il faut s'en parler avant que vous fassiez ces choses-là. Vous ne me faites pas confiance, vous ne m'écoutez pas, je vous l'avais dit, blablabla. Et donc, il faisait référence à la pression des pneus, que la pression doit avoir pour pas que la voiture soit trop basse et proche de la surface. Là, on tombe vraiment dans les technicalités.
Oui, ouais, on tombe dans le détail, dans la finition.
Mais on se rappelle que la Ferrari a été disqualifiée, et Lewis et Charles en Chine, parce que le plancher avait été trop bas. Bref, il n'était pas content. Finalement, c'était pas ça du tout. Il s'est excusé lui-même ensuite. Il y a eu un problème de châssis et ça l'a bousillé sa course. Lui qui fait sa première pole de la saison, il avait une chance de gagner. C'est un circuit où il est de façon notoire pas très bon. Il l'a dit lui-même hier à Budapest. Maudit que je l'ai eu, c'est ma pire course. Et c'est un circuit où c'est difficile de dépasser. Donc, on se disait, si c'est difficile de dépasser, ta voiture est top, théorie, tu gagnes. Mais c'est pas ça qui est arrivé, malheureusement pour lui.
Au final, c'est McLaren qui a dominé ce Grand Prix-là. Est-ce qu'on a favorisé Lando Norris, selon toi?
Non. La réponse, c'est non. Les fans de Lando Norris diraient peut-être le contraire. C'est facile, si on regarde pas la course et si on s'informe pas trop, de se dire, ben voyons donc, si on fait ça à Lando, il aurait pu faire la même chose pour Piastri. On se rappelle des faits. Piastri entre au puits avant Charles Leclerc, parce que Leclerc mène la course. On se dit, on va essayer de faire le undercut. Ça veut dire quoi? Tu rentres au puits avant, tu changes tes pneus et tu profites de nouveaux pneus pour faire du meilleur temps.
Ouais.
Et que lorsque Leclerc entre, ben toi, tu prends
passes
ce
devant,
tour-là et tu gagnes des dixièmes et des dixièmes. Ça n'a pas fonctionné. Fait que là, en voyant ça, ben les ingénieurs de Lando ont dit, écoute, ça marche pas tant que ça. Mes pneus sont pas si pés que ça. Moi, je pense que je peux me rendre jusqu'au bout, là. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ils ont demandé, Lando, veux-tu qu'on aille au bout? On essaie. Il a dit, ben oui, why not? Vraiment, de façon détachée, parce qu'on sait que la course entre Lando et Oscar est très féroce pour le premier rang. Et donc, finalement, ça a favorisé Lando Norris, qui a été extrêmement fort sur 39 tours, a réussi à bien gérer ses pneus. Et lorsqu'il a eu, en fait, du clean air, de l'air pur, donc personne devant lui est allé chercher des gros temps tour après tour pour se gruger une avance suffisante pour que Oscar ne puisse pas le dépasser à la fin. Écoute, les 3, 4, 5 derniers tours, c'était enlevant au possible. C'était probablement le meilleur moment de la course. Piastri qui a essayé de le dépasser quoi, au 68e, au premier virage, a bloqué les roues un peu, a failli rentrer dedans. Mais Lando était trop rapide et finalement a gagné.
Écoute, Jean-Max, honnêtement, puis parenthèse qui me sort rapidement de ce Grand Prix de ce week-end, là, mais cette compétition entre Lando et Oscar à l'interne me garde accroché à la F1 cette année beaucoup plus que les dernières années où c'était une nette domination vers Verstappen et c'en était plate à suivre. Là, on tombe dans un mois de pause, mais on a hâte à dans 4 semaines au prochain Grand Prix pour continuer à suivre cette histoire qui, oui, se passe au sein de la même écurie, mais entre deux coéquipiers, mais qui est loin d'être terminée. Bref, fin de cette parenthèse, mais ça me garde solidement accroché, puis j'en suis certain que les auditeurs, les amateurs de F1 aussi. Je viens de te glisser un mot sur Max Verstappen, mais fait encore parler de lui, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Virage agressif devant Lewis Hamilton. Est-ce que pour toi, ça méritait une pénalité?
Non, ça ne méritait pas de pénalité. Je l'ai revu et revu. Les officiels, eux aussi, effectivement, ils l'ont revu et revu. Bon, généralement, tu cales la pénalité durant la course ou pas. C'est-à-dire, tu analyses la manœuvre au ralenti. Et si c'est clair, tu en donnes une. Et si c'est clair qu'il n'y en a pas, tu n'en donnes pas. Là, finalement, ils voulaient caler un meeting avec Lewis et Max à la fin de la course. On rappelle les faits, Max arrive dans un virage et honnêtement, il est quand même assez en arrière de Lewis et au lieu de freiner, ben, il est vraiment rentré dans la courbe comme il est capable de le faire, comme une roquette.
Ouais.
Selon les règlements, il n'était pas assez proche, son museau n'était pas assez proche de la voiture de Lewis pour que ce soit une manœuvre dite non dangereuse et légale. Est arrivé vraiment vite dans la courbe. Et on le sait, Max, il a fait ça trop souvent, a causé des accidents. Lewis s'est dit, je prends même pas de chance. Il a coupé en 45 hors piste complètement. Il s'est dit, moi là, regarde, ça fait 2, 3, 4 fois là, que je rentre dans Max ou qu'il me rentre dedans. Ça me tente pas. Il a juste coupé en 45. Et finalement, Lewis ne s'est même pas pointé finalement à la réunion d'après-course.
Wow.
Et donc, les officiels ont dit, bon, ben, si Lewis n'est pas là, probablement que, bon, c'est parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de pénalité.
Ouais.
Max le dit lui aussi, on ne s'est même pas touché, il n'y a rien là, c'est une manœuvre de course.
On passe à un autre appel.
Pour que ça demeure un mouvement agressif, mais il n'y a pas eu de dommages, donc on ne sait pas.
Jean-Max, il nous reste une petite minute, je veux qu'on le couvre rapidement, mais c'est important de le mentionner. Très belle performance pour Aston Martin en fin de semaine. Fernando Alonso avec une 5e place, Lance Stroll avec une 7e. On récolte des points, un grand total là, de 16 points pour eux ce week-end.
Oui, ça c'est vraiment énorme. Ils ont amené un nouvel aileron avant. Alonso était très satisfait du potentiel que ça pouvait arriver en simulation. On l'amène hier. On a clairement des bons résultats. Alonso qui commence... en fait, c'est Aston Martin qui, tranquillement, se prépare pour l'année prochaine pour être compétitif. On sait que Adrian Newey, le meilleur ingénieur sur cette planète, est maintenant avec eux. Il travaille ardemment sur la 2026. Donc, c'est 16 points pour Aston Martin qui sont extrêmement précieux. Et quand je regarde le classement avec ces 16 points-là, on tombe au 6e rang des constructeurs. Un point devant Kick Sauber et Bortoleto, qui a quand même fini 6e lui aussi, qui est excellent. On se rappelle que à la fin de l'année, plus une écurie finit haut, plus elle obtient des bonus. Et ça se compte en dizaines de millions de dollars. Donc, entre la première et la 10e place, honnêtement, la différence est énorme. On a les 4 grandes écuries de points. Donc, l'écurie qui finit 5e, c'est comme the best of the rest. C'est la meilleure des 4 grosses écuries. Donc là, Aston Martin est à 18 points de Williams, qui est en 5e place. Donc, ça aussi, ça demeure intéressant à suivre pour le restant de la saison, la bataille du milieu de peloton.
Très hâte de voir la suite après cette pause qui est lancée maintenant avec la panoplie de rumeurs. Certain qu'on va se reparler dans les prochains jours, prochaines semaines. Jean-Max, merci d'avoir pris ces quelques minutes avec nous. Puis je te souhaite une bonne fin d'après-midi, mon ami.
Toujours un grand plaisir. Bonne semaine à toi. Merci, Alex.
Merci. Salut. Bye-bye.